Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une dernière émission Crème de la Crème cette semaine sur Canal B. On a un programme très chargé aujourd'hui. Dans quelques secondes, un dernier titre de notre album disque d'or de la semaine. Et puis on écoutera aussi un autre titre de 1968 grâce à la machine à remonter le son. On donnera un champ libre à Antoine Filias, animateur de Canal B, mais aussi écrivain qui a publié en août 2023 le très bon roman Plexiglas paru aux éditions Asphalt. Et puis on aura droit, grâce à Ronan Chaplin, au morceau de choix 17e du nom aujourd'hui, Quentin Leja, coordinateur de Canal B et animateur de l'émission Sabotage Temporaire. On commence direct avec un morceau plutôt calme, plutôt voyageur, grâce au groupe hollandais Yin Yin, le morceau Tam Tam sur leur album Mount Matsu. Bonne émission.
Like the other kids, lift the world of building bricks.
aimez la musique progressive, vous écouterez peut-être leur album de 1970 de Magic Shoemaker. Si vous êtes fan de Freakbeat bien énervé, vous préférerez forcément ce single de 1968, le groupe Fire à l'instant, mené par Dave Lambert, qui passera les années 70, 80 et 90 aussi, qui passera son temps à donner des cours de guitare et à enseigner le ski en Autriche. Voilà, ça peut mener à ça, les carrières éphémères dans la musique en Angleterre à la fin des années 60. On poursuit avec notre chant libre à numéro 5 aujourd'hui, le romancier Antoine Filias. Fois par mois, le dernier vendredi du mois, en l'occurrence, c'est Champ Libre A. On discute avec une artiste, écrivain, chorégraphe, musicienne, photographe, pour évoquer son actualité plus ou moins récente, et puis aussi un rapport proche avec la bibliothèque des Champs Libres, avec les Champs Libres en tout cas. Et bien là, on retrouve en plus un animateur de Canal B. On était obligé d'inviter Antoine Filias. Bonjour Antoine.
Salut Yann.
De l'émission Le Tri Sélectif, vous l'écoutez le dimanche à 19h, et puis les rediffusions, et bien c'est le mardi à 16h. La dernière en date, c'était le 21 janvier, puisqu'on est vendredi aujourd'hui, et c'était consacré à la revisitation de la discographie de Laura Marling. Mais là, c'est toi qui vas te livrer à un tri sélectif. Je t'ai demandé de nous choisir quelques disques, quelques films, quelques bouquins. On va parler aussi évidemment de Plexiglas, ton dernier roman en date. C'était paru en août dernier aux éditions Asphalt. Il se trouve quand même, chers auditeurs, je vous le dis, que Antoine Filias, c'est peut-être le seul auteur dont j'ai lu toute l'œuvre. Eh oui, parce que j'avais lu Home Sweet Home, c'était en 2019 à l'école des loisirs avec Alice Zeniter, et puis j'avais lu après Stéréo en 2021 aux éditions des Équateurs, et puis Plexiglas chez Asphalt avec une régularité de métronome 19, 21, 23.
C'est un peu le hasard du calendrier, puis en plus c'est trois éditeurs différents, donc voilà, mais si tout va bien 2025 toujours chez Asphalt la prochaine, donc on va garder le rythme. Et moi j'aime assez cette idée d'avoir un bouquin qui sort tous les deux ans, et puisqu'à côté j'ai un autre travail, donc c'est bien, ça me permet d'avoir du temps entre les deux.
Très belle rencontre entre la maison d'édition et puis ton texte. Vous trouverez, si vous cherchez, quelques vidéos comme ça qui présentent ton travail, et notamment cette rencontre. Tu as envoyé un mail et puis...
Oui, c'était à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, et je commençais à envoyer des manuscrits qui, d'ailleurs, heureusement qu'ils ont pas été publiés, parce qu'ils sont probablement nazes à relire aujourd'hui, mais j'en envoyais par courrier, ça coûtait cher, c'était fatigant, et là, je vois, ils acceptent par mail, et en plus, je vois que ça collait assez avec ce que j'avais envie de faire. Je leur envoie un mail, ils me font une réponse, ça nous intéresse pas, mais ils me répondent quand même, et puis, ouais, c'est 7-8 ans plus tard, ils finissent par accepter Plexiglas, donc c'est chouette.
Un livre qui va beaucoup nous accompagner au début de la discussion, et puis on écoutera aussi quelques musiques et puis quelques extraits de films aussi. On va commencer là où commence Plexiglas, c'est-à-dire il y a un covoiturage, on va de Rennes à Cholet, et puis à Cholet, eh bien, on va découvrir sa place Travaux, son club de basket, sa radio Alouette, aussi importante, première radio locale en France, à quelques époques que ce soit, je sais pas.
Oui, alors après, attention, il faut quand même préciser qu'Alouette, c'est les Herbiers, parce qu'on va se faire...
Oula, pardon.
Et c'est en Vendée, donc on va se faire rouspéter. Mais c'est écrit par Devilliers.
Ah mon Dieu.
Comme le Puy du Fou.
Devilliers qui est cité une ou deux fois dans le roman, quand même, oui, à propos du Puy du Fou.
Son ombre plane sur la ville de Cholet.
Alors ça, c'est par Françoise, c'est une des collègues de Lulu. Lulu, c'est l'une des deux personnages principaux du roman. Et à Lulu, elle a la cinquantaine, elle se fait... un peu chier, quand même, on peut le dire, au carrefour à la caisse numéro 4. Elle vit seule. Bernard est parti il y a quelques temps. Il est mort, en fait. Son fils aussi est parti, mais lui, il est à Paris. Et puis, elle navigue entre pause clope et pause café, entre visite à l'EHPAD pour voir sa mère et puis visite à Nose pour sortir de l'EHPAD et se sortir un petit peu de cette horreur, finalement. Et puis, il y a les autres personnages. L'autre, c'est Elliot. Elliot, il a 30 ans. On pourrait en voir une sorte de cousin éloigné, de dos, peut-être. connaître d'Antoine Filias, l'auteur du roman. Allez savoir, lui, il vient de Rennes, il s'est un peu fait défoncer la jambe par un CRS pendant une manif. Alors c'était...
Contre la réforme des retraites.
Non, c'était contre la réforme des retraites.
Ça avait commencé en 2019.
Et voilà, et puis il va en convalescence dans la maison de son grand-père. Son grand-père est aussi à l'EHPAD. Le même, peut-être, que celui de la mère de Lulu. Et puis, lui, il va essayer de se refaire un peu la cerise, quoi, de se refaire une petite santé avant de revenir peut-être à Rennes, on verra bien. C'est pas un roman sur le Covid, mais il est là quand même. C'est un roman qui est très social, très politique, qui est très drôle par moments aussi. Il est ancré dans la réalité, hein. C'est pas comme un certain Houellebecq qui va aller lire dans Wikipédia comment ça se passe à Beauvais pour parler de Beauvais. Là, on pense que toi, tu connais Cholet, la preuve, tu y es né. Il y a un peu plus de 33 ans maintenant. Ça s'est passé comment, la création de Plexiglas ? C'est né avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid ?
C'est né avant le Covid, c'est né en fin 2019, alors que je me trouvais en convalescence. Il faut savoir que ma famille, ma mère habite toujours là-bas, à Cholet, à la Séguinière précisément, qui est aussi citée dans le livre. Et j'y suis retourné un certain temps, et pendant ma convalescence, je me baladais dans Cholet, j'avais déjà l'idée de faire un roman social sur une ville de taille moyenne qui est peu citée en littérature, mais je pensais à d'autres villes, je pensais à Morlaix, je pensais à
Saint-Brieuc peut-être, non
Saint-Brieuc, pourquoi pas Lamballe, je pensais à des villes comme ça, plus près de Rennes quoi, en Bretagne. Et puis à force de passer du temps à Cholet, je prenais des photos, puis je voyais des rues où j'avais plein de souvenirs, ou alors aucun souvenir, mais qui m'évoquaient où je me voyais placer mes personnages. Je me suis dit, bah, pourquoi aller chercher plus loin? En fait, je vais placer l'action du roman dans la ville où j'ai grandi pendant 18 ans. Et je me suis dit, je vais commencer, ça va raconter une année dans un sorte de huis clos dans la galerie commerciale, parce que l'idée de base c'était, je voulais que ça se passe que dans un bar de galerie commerciale, parce que il m'arrivait d'y passer du temps parfois, c'est des endroits très étranges, des bars sans fenêtres, des bars qui ferment tôt, où il y a des caddies, c'est particulier. Je vous conseille d'aller aller à Alma par exemple, vous en trouverez un. Et d'abord je voulais ça, une fois que j'ai dit que ça sera à Cholet, j'ai dit ok, ça sera celui de Cholet, précisément le carrefour de Cholet. Et puis ensuite je me suis dit, ça sera l'année qui vient. Donc là on était fin 2019, j'ai dit tiens, bah ça va aller de janvier à décembre 2020, sauf que j'étais de me douter que 2020 allait ressembler à ça. J'ai même été intimidé, j'ai arrêté d'écrire un peu pendant le Covid, bizarrement.
Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à écrire.
Oui, parce que je me disais, ouais, est-ce que c'est pas trop étourdissant, est-ce que c'est pas trop... Puis en fait, moi, je suis emmerdé parce que je voulais faire un huis clos dans une galerie commerciale, et là, ça rajoute une espèce d'intrigue. Moi, je voulais pas d'intrigue, justement, je voulais pas de grandes intrigues. Et puis finalement, ça a nourri le bouquin, et il a été d'ailleurs après question de savoir, est-ce qu'on le sort quand même, parce que est-ce que les gens sont pas saturés de la littérature autour du Covid? Finalement, on a presque du recul maintenant. Il y a une vague d'auteurs bourgeois qui racontaient leur cahier de confinement dans leur maison à la boule. Je me suis rendu compte qu'avec mon éditrice, qu'il y avait peu de romans qui parlaient des travailleurs pendant le Covid. Donc c'était intéressant de le sortir même en 2023.
Alors, j'ai cité les deux personnages principaux du roman Plexiglas, mais il y a les autres. Hein. Il y a Raph, sa jumelle, celle d'Eliott. Il y a Hugo, le fils de Lulu. Et puis Jonas, William, Félix, Kevin, Franck, Hélène, Josie et les autres. On dirait presque du Sautet, mais non, c'est pas vraiment du Sautet parce qu'on n'est pas dans la bourgeoisie, on n'est pas dans des brasseries enfumées. On est dans des bars où on peut plus fumer, de toute façon. Et puis on est au comptoir, et parfois on n'a pas le droit d'être au comptoir, alors qu'on peut être à la banquette. Bon, c'est un peu surréaliste, évidemment. C'est cette époque que vous avez vécue, mais on sort assez facilement du Covid parce qu'il y a les préoccupations de ces personnages qui sont encore bel et bien présentes aujourd'hui, même si le Covid s'en est un peu allé. Tu fais corps avec tes personnages principaux, Lulu et Eliott. Comment tu les vois aujourd'hui, ces personnages-là? Ils ont évolué, d'après toi?
Bah, pas vraiment, je pense pas. En fait, j'y réfléchis d'ailleurs, parce que je me demande si je vais pas écrire un spin-off, pour parler à l'américaine. Non, je pense que ça a pas beaucoup évolué. Moi, ce qui m'intéressait, au-delà de tout ce portrait un peu sombre, c'était évidemment de parler de comment le capitalisme nous vole le temps. Et du coup, le peu de temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on en fait? Encore plus quand il y a une pandémie et que le capitalisme fait du profit encore plus sur nous priver de notre temps au moment où on en a le plus besoin pour être auprès des nôtres et pour se protéger. Eliott et Lulu, justement, ça me donnait un défi d'auteur, c'était de raconter des quotidiens de personnages qui sont, par exemple, il y a un chapitre entier où c'est Lulu qui zappe à la télé, où c'est Eliott qui pêche et qui pense, des gens qui font rien en fait, et à qui il arrive rien. Il arrive plein de choses, mais il arrive pas grand chose. Il y a pas d'arc narratif à la fin du roman. Ils ont pas eu un arc psychologique où ils ont évolué, ils ont pas appris des choses sur eux-mêmes. Du coup, je pense, pour répondre à ta question, que 4 ans plus tard, je souhaite à Lulu d'être à la retraite.
Elle espérait.
Puisque le bouquin, je crois que dès la première fois qu'on la voit, elle dit je suis pas à la retraite avant 2022, 2023 s'il y a pas une réforme, quoi. Donc,
ce qui est pratique d'écrire après coup, en fait, et de pouvoir un petit peu revenir sur le passé et se dire. Elle était déjà là, mais on le savait forcément. Mais
bah oui.
Les personnages le savent aussi qu'il y a une réforme qui arrive.
Elliot, je le vois bien, lui qui est un militant un peu inconséquent, suivre peut-être un amoureux à Sainte-Soline ou dans les soulèvements de la Terre, quelque chose comme ça, se casser encore quelque chose, ou alors partir trouver un boulot de merde dans une autre ville de merde, voilà, éventuellement. À suivre.
En tout cas, là, on va faire une petite pause musicale parce que tu as la bonne idée de glisser une playlist à la fin.
Alors ça, c'est la bonne idée. Je remercie les éditeurs Asphalt parce que vraiment, je trouve que c'est un concept sympa. J'aurais aimé que ça soit fait pour mon roman précédent. J'avais même fait la demande, on m'avait refusé.
On va en parler tout à l'heure du roman précédent, mais c'est sûr, ça aurait été encore plus approprié.
Et peut-être dans le roman où il y a le moins de musique, il se trouve que j'ai le droit de choisir une playlist, donc de morceaux qui reflètent un peu l'esprit des personnages, du décor, et donc là, notamment du. Je crois qu'on a choisi.
Trotsky Nautique,
et dont le titre du morceau est assez, je dirais que ça pourrait être un peu le slogan du livre, quoi.
Trotsky Nautique, vous avez la chance, vous auriez pu avoir droit à la vraie bande-son du roman, et c'est plutôt Goldman et Christophe Maé, ou Chéri FM, Europe 2, vous voyez ce genre de choses.
On était jeunes, on était fous, on n'avait pas de pognon, on vivait dans les égouts, avec les rats et les morpions. On était jeunes, on était fous, on n'avait pas de pognon, on était dans la merde jusqu'au cou, on n'avait pas de savon. On est devenu vieux, on s'est acheté une maison. Pour payer les traites, on travaille comme des bœufs. On ne fera jamais la révolution. On était jeunes, on était fous. Maintenant on a une maison. On était jeunes, on était fous. On ne fera jamais la révolution. On était jeunes, on était fous. Maintenant on a une maison. On était jeunes, on était fous. On ne fera jamais la révolution.
Trotsky Nautique, l'insurrection qui ne vient pas. Un titre accompagné d'autres par les Wampas, Jean-Luc Le Ténia, Dick Hanegarn, Phil Catherine, Renault, les Clash ou bien les Rennais de Gwendoline pour faire une sorte de bande-son idéale de ce roman Plexiglas par Antoine Filias. On en parle avec toi, Antoine. Vous aurez l'occasion de vous croiser, hein, Antoine et les auditeurs, si vous ne l'avez pas encore fait. Ce sera le 3 février puisque tu seras invité dans une discussion au Champ Libre dans le cadre du festival Jardin d'hiver. Ça sera ce qui nous relie avec aussi l'autre auteur rennais, Claude Battani. Alors il n'y en a pas que deux, hein, mais bon voilà, vous serez deux auteurs rennais dans cette discussion le 3 février à la Vie du Citoyen pour une heure à bâton rompu, j'imagine, dès 18h. Je voyais moi, oui, un fil rouge, il y a un fil rouge dans ton écriture du Home Sweet Home que tu avais écrit avec Alice Zénitaire qui était paru en 2019 à l'École des Loisirs, et puis entre les deux Stéréo, là c'était paru aux Équateurs. Changement d'édition à chaque fois, changement de personnage à chaque fois aussi, et d'univers, même si on retrouve quelques impressions qu'on connaît un petit peu, le personnage principal, les personnages principaux. Toi, tu te défends de vouloir faire de l'autofiction, mais c'est vrai que tu utilises quelques-uns de tes traits de caractère, de personnalité, pour quelques-uns de ceux de tes personnages.
Ouais, c'est toujours. Je veux pas faire d'autofiction, en effet, mais forcément, à un moment, on écrit sur ce qu'on connaît. Et plexiglas, c'est le cas le plus fort, puisque j'ai écrit vraiment sur des peut-être ça peut sembler des archétypes, les personnages, mais c'est des archétypes que moi-même je connais, que ce soit dans ma famille, dans l'entourage, dans le monde du travail. Et c'était le cas avec les autres bouquins aussi. Surtout, ce que j'essaye, c'est là que je me rends compte quand je vois, j'ai que trois livres, hein, je suis au tout début, mais je vois des petites ressemblances. En effet, comme tu disais, il y a aussi le fait qu'il y a toujours deux personnages principaux qui se partagent un peu l'histoire, parce que j'ai toujours du. Parce que ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai, comme beaucoup d'ados dans mon genre, on va lire Kerouac, London, on va lire l'autofiction de la première personne, etc. Et des récits assez égocentrés, autocentrés, et que j'aime beaucoup par ailleurs, mais voilà. Et je voulais justement, j'ai tellement lu ça, j'ai tellement commencé à faire ça, que j'ai voulu à un moment dire non, c'est plus du tout ce qui m'intéresse. Plutôt envoyer cette charge-là à différents personnages, notamment deux personnages, toujours un masculin et un féminin. Et puis qui viennent de milieux différents, voilà. Je pense qu'il y a toujours au cœur de mes romans un côté marxiste, et ça évoque toujours la lutte des classes à travers les deux personnages. Alors là, il se trouve dans Plexiglas, les deux personnages viennent de la même classe sociale, sont deux prolos qui subissent la classe dominante différemment, et qui vont même céder à la subir avec chacun leur façon.
Elliot,
ils vont se rejoindre. Lulu, elle rentre dans le militantisme sur le tard un peu, et Elliot, lui, il est déjà dans le militantisme, mais il manque de bon sens, entre guillemets, de pratique. Donc voilà.
Dans Stéréo aux éditions des Équateurs, là, il y avait Arthur et Nina, un couple qui se cherche, qui se perdent, qui se retrouvent. Ça vous rappelle une chanson? Oui, peut-être, mais c'était pas une chanson de Jeanne Moreau, normalement, que ça devait vous rappeler, parce que Stéréo, en fait, ça va aller tout près du groupe Pavement. Un groupe qui t'est cher et ouais. Que tu n'as pas vu en concert au Transmusical parce que tu étais trop jeune, il me semble.
Oui, j'avais deux ans quand ils ont joué en 92 en première partie de Sonic Youth. On en avait parlé, d'ailleurs tu m'avais invité à l'époque, mais c'est vrai que le bouquin qui commence au Transmusical de Rennes et qui raconte, oui, les 10 ans dans la vie de Arthur et Nina, qui là encore une fois, Arthur prolo brestois et Nina fille de la bourgeoisie culturelle de La Rochelle, qui vont se croiser et séparer tout au long des années 90 avec comme fil rouge la discographie de Pavement, puisqu'il y a 5 albums entre 92 et 99. Et c'est là aussi, c'est un roman où j'évoque les mêmes thématiques, mais avec quand même l'amitié et l'amour qui sont beaucoup plus présents que dans le dernier. Je suis très fier de ce livre. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas été mieux distribué, mais je suis content, j'espère qu'il ressortira un jour.
Tu aimes t'imposer des contraintes, en fait, dans l'écriture, j'ai l'impression, alors sans être oulipien pour autant, hein, on va pas aller jusqu'à oublier une lettre dans le roman, c'est sûr, mais en tout cas, la contrainte avec ce Stéréo-là, c'était qu'on passe d'un personnage à l'autre, qu'il s'envoie des lettres, des mixtapes, parfois des playlists aussi, et que l'écriture passe aussi par là, par une façon différente, selon qu'on écrit à la première personne, selon qu'on est dans un journal, selon qu'on envoie une lettre. Et puis une contrainte supplémentaire, on est dans le passé, une époque que t'as pas connue, donc il a fallu que tu te documentes précisément. C'est un moteur en plus de l'envie de raconter l'histoire.
C'est pas le moteur en plus, je dirais que c'est le moteur principal, parce que le style m'intéresse toujours plus que, enfin la forme m'intéresse toujours plus que le fond, et je vais évidemment trouver un fond qui va me permettre de pas m'ennuyer pendant l'écriture et de trouver de la motivation, mais c'est surtout, ouais, le fond, le style, et ça passe avant tout par les deux trucs essentiels, le travail de recherche, comme tu le disais, pour être au plus proche du réel, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse jusque là. Peut-être que je ferai de la science-fiction un jour, mais là je veux vraiment être au plus proche du réel. Quand je parle d'une rue, je veux être sûr que cette rue existe, et si je dis que le mur est blanc, je veux être sûr qu'il est blanc, même si c'est en 78 ou maintenant. Si un personnage regarde la télé, tel jour, je peux être sûr que ce qu'elle regarde à la télé, ça sera ce qui est vraiment passé à la télé.
Donc t'achètes télé poche pour savoir tes stars.
Mais je regarde, pendant le travail, je demande à ma mère de garder le journal local, les bulletins municipaux, tous les publicités Carrefour, évidemment, parce que je tiens, ça intéresse peut-être que moi, mais moi je sais en tout cas que c'est sûr. Et puis l'autre truc qui est vachement important, c'est la structure. Donc toi tu dis contrainte, mais pour moi la structure, ouais, je me la mets au début, ça va me guider, elle peut évoluer au fil de l'écriture, mais au moins ça me guide et ça me met pour Stéréo. En effet, c'était de faire ça sur 10 ans au fil des albums de Pavement, et puis de partager la narration, et puis sur Plexiglas, c'était de faire sur une année, en prenant des jours de l'éphéméride, qui sont à la fois des jours vachement importants dans une ville anciennement rurale et industrielle comme Cholet, puisque c'est des jours des moissons, les jours des saints, c'est une terre très catholique, évidemment, Cholet aussi, proche de la Vendée, et en même temps, ce sont les éphémérides qui sont aujourd'hui ceux du capitalisme, puisque ce sont les jours de solde, les jours de vente de chocolat de Pâques et de barbecue barbecue pour l'été. Donc c'était ça ma structure là-dessus. Et là, il a fallu faire plein de recherches, mais ça, c'est pas compliqué.
Une contrainte que je t'ai demandé, moi, c'est de nous apporter de la musique qui soit pas du tout en rapport avec Plexiglas, mais avec tes goûts à toi, depuis longtemps affirmé, il me semble quand même. Hein. Tu as un peu plus de 30 ans, mais ça doit faire presque 20 ans que tu sais précisément ce que tu aimes en musique.
Ouais, à peu près. C'est pas facile quand on grandit à Cholet, de notamment à la Séguinière même, sans Internet. J'ai eu Internet vers mes 18 ans, de découvrir tout ça. Et pas du tout, il n'y avait pas les magazines musicaux au bureau de tabac du coin. Il n'y avait pas ça au collège et au lycée non plus. Il y avait une médiathèque. C'est la médiathèque de Cholet, je dois dire, avant d'aller emprunter tout ça, mais non, au Champ Libre. C'était à la médiathèque de Cholet que je me suis fait ma culture.
Et il y avait une sorte de Jean-Luc Le Ténia comme au Mans qui choisissait de très beaux disques.
Ouais, bah, en tout cas, ceux qui étaient mis en avant. Et puis après, bah, tu sais ce que c'est, on va de fil en aiguille, on remonte le. Et après, on va trouver des livres qui parlent des artistes qu'on aime, qui vont nous renvoyer vers d'autres artistes. Et puis après, on arrive quand même à l'indépendance à la fac, et là, on commence à avoir Internet, et excellent. Et après, on commence à avoir des sites de streaming incroyables, et puis on va avoir des concerts, et puis etc. Et on fait de la radio.
Et on fait de la radio, puisque tu en as fait, du côté d'Angers. On va partir loin, dans la Galaxie 500 avec Dean Wareham. En quelques mots, ça arrive comment, ça, dans ta vie?
Ça arrive, Dean Wareham, et notamment Galaxie 500. C'est au moment où je commence à écouter pas mal de musique des années 80, quand j'ai passé enfin le truc de me dire, les années 80, c'est que de la merde. Je découvre qu'il y avait plein de groupes indés passionnants. Évidemment, j'étais écouté des trucs de Sarah Records, les groupes britanniques. Et puis, comme je reviens quand même toujours aux États-Unis et qu'à la base, j'étais déjà fan de Lou Reed, j'ai découvert ce groupe qui reprenait pas mal le Velvet et Lou Reed, et aussi Dylan, un autre de mes artistes préférés, si ce n'est mon favori. Et qu'il reprenait dans une ambiance dream pop un peu shoegaze, avec plein de distorsions de guitare comme j'aime. Je crois même que j'ai découvert avant le groupe suivant de Dean Wareham, qui s'appelait Luna, qui a sorti de très jolis albums dans les années 90. Et ça, c'était son trio de base, qui a commencé dans les années 80. Je crois que ça, c'est 88 ou 87, quelque chose comme ça. Et c'est exactement le son que je voulais. C'est un pareil, j'aimais bien Mesistar, j'aimais bien déjà ce genre de son. Et là, c'est leur... Ils ont sorti que 3 albums officiels. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est leur premier, Today. J'ai choisi un morceau en plus que je trouve... c'est pas forcément mon favori sur l'album, mais je trouve que c'est le plus approprié, puisqu'on la couverture de mon dernier roman, c'est un parking. Et le morceau s'appelle Parking Lot.
Yeah.
Sélection choisie par notre invité du jour, Antoine Filias, dans Champ Libre. Ah, qu'était-ce donc ?
C'est un extrait du dernier album en date de Big Fifth, qui est, je peux le dire, mon groupe préféré de ces 10 dernières années. Groupe américain formé autour d'Adrian Lenker, qui est une grande, grande artiste, qui sort son deuxième album, enfin, c'est même son troisième maintenant, là, au mois de mars, dans peu de temps, que je vais avoir le plaisir de revoir en concert à la Passe à Paris au mois de mai. Et voilà, et ce morceau en particulier, parce que comment faire de la folk américaine, la réinventer en 2023, c'est pas évident quand il y a eu tellement de groupes différents et tellement d'influences, et comment prendre ces influences en faire quelque chose de totalement nouveau. Bah voilà, c'était ce morceau, Spew d'Infinity, qui a en live, qui est une tuerie, et en studio aussi. Et ils sont en train de créer une discographie passionnante. Du genre, on se dit, ah, je suis content de vivre en même temps qu'eux et de les voir continuer les albums. Donc voilà, Big Fifth, que je vous conseille. Et pour Galaxy 512, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un tri sélectif sur. Tout ce qu'avait fait Dean Warham. Voilà.
Puisque oui, Antoine, tu es l'animateur de l'émission Tri Sélectif sur Canal B le dimanche à 19h. Retrouvez, bah oui, toutes les playlists des émissions anciennes et pas mal de réécoutes sur canalb.fr. On était aux États-Unis dans une ambiance boisée. On va plutôt aller vers les mines, peut-être, je sais pas. En tout cas, on va aller vers le nord de la France à la fin des années 1960 avec ta sélection, première sélection de cinéma. On parlera de l'enfance aussi dans tes bouquins, mais parle-nous de celle-ci qui est nue, cette enfance nue de Piala.
L'enfance nue, ouais. Alors Piala, qui est là aussi, je pense mon réalisateur français favori, qui m'a réconcilié aussi à une période où voilà, on grandit regardant le cinéma. J'ai bouffé beaucoup de cinéma anglo-saxon et américain particulièrement. Et puis quand je suis revenu à du cinéma français, avec les a priori que j'avais sur le cinéma d'auteur plus jeune, j'ai d'abord ma première passerelle, ça a été le cinéma de Piala. Et l'enfance nue, que j'avais revu d'ailleurs à l'époque où j'écrivais Home Sweet Home, donc c'est pas totalement éloigné de ce que j'écris, mais pour son portrait de l'enfance, et son portrait de l'enfance ancré dans le réel, puisque Piala, à l'époque, je sais pas s'il a tourné en 68, en tout cas le film sort en 68, a été tourné dans le nord de la France. Et raconte l'histoire de cet enfant qui se retrouve dans une famille d'accueil, qui fait plein de conneries, qui se retrouve dans une famille d'accueil, qui sont des petits agriculteurs du coin, et il suit ça de manière très naturaliste, et ça crée des moments de cinéma, des moments de réel incroyables, que ça soit dans le rapport du gamin avec les animaux, avec une vieille grand-mère qui meurt, il y a la mort qui rentre là-dedans. On est entre le documentaire et la fiction, on est dans le cinéma de Piala, et c'est ce qui fera toujours après, hein, vraiment capturer des prises, faire de vraies scènes, de vrais moments, quitte un peu à filmer trop et puis après à couper. Et j'adore ce film. En plus, c'est un Piala garantissant de par Dieu, donc c'est très bien. et je vous le conseille. Et je trouve que c'est un des plus grands films sur l'enfance. C'est un peu l'antithèse pour moi des 400 coups de Truffaut. À rapprocher aussi d'un autre grand film qui est sorti plusieurs années après, Boyhood de Richard Linklater. Il y a, je pense, des parallèles à faire entre les deux.
C'est un enfant recueilli temporairement.
Il connaît sa maman, alors?
À peine. Elle lui a pas écrit depuis un an. Mais elle peut le reprendre quand elle veut. Alors je vais lui donner votre adresse, et si elle vous écrit, vous devez lui répondre dans les 8 jours.
C'est ça.
Mais comme d'habitude, vous ne donnerez pas trop de détails.
Puis vous m'enlèverez pas de la tête que ce ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord, on ne sait pas d'où ils viennent.
Nom Fournier, prénom François. Né le 12 décembre 1957, admis le 1er juillet 1961. Catégorie RT. Numéro du dossier 7697. Culte catholique baptisé.
Moi, j'attendrai pas ma carte d'identité pour savoir d'où je suis né. Moi, je fais mon enquête moi-même. Quand j'aurai assez d'argent, je prendrai le train et j'irai voir comment ça se passe là-bas.
Là-bas, c'est le paradis perdu de l'enfance heureuse. C'est pour cela que ceux qu'on appelle les recueillis temporaires chercheront toute leur vie cette enfance qu'on leur a volée.
L'enfance, elle est toujours en filigrane dans tes textes, hein, les 3 livres que tu as écrits pour l'instant. On la sent présente dans Plexiglas, parce qu'évidemment, Elliot a été enfant, il a grandi dans cette maison du grand-père. Dans le précédent, eh bien, c'est des presque encore enfants, des adolescents qui grandissent, mais il y a des scènes très enfantines, notamment dans cette maison de vacances de Nina, où ils écoutent de la musique, et là, ce sont des enfants à nouveau, dans ce roman-là. Et puis dans le premier, Home Sweet Home, là, évidemment, on est en plein dans la famille... une recomposition d'une famille idéale avec des frères et des sœurs qui ont décidé, ce sont pas des vrais frères et des vraies sœurs, hein, mais bon, ils ont décidé de se barrer et de vivre en communauté à Cleveland comme une sorte de phalanstère utopiste et enfantin où ça se passe plutôt pas mal en fait.
Ouais, ils ont décidé, disons que la crise économique de 2008 a foutu pas mal de leurs parents dans la merde et beaucoup se sont trouvés abandonnés ou ont fugué en effet et se mettent à squatter ce lycée abandonné et à se demander, bon, maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vit comme nos parents? Est-ce qu'on recrée une société comme celle qu'on a toujours eue? Ou est-ce qu'on invente quelque chose d'autre? Est-ce qu'on fait une zone à défendre? Ou est-ce qu'on réinvente l'école? Mais si on fait l'école, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend ce que les adultes veulent qu'on apprenne ou est-ce qu'on va essayer par exemple, d'apprendre la botanique ou d'apprendre à se défendre, j'en sais rien. Et ça, c'était le thème de Home Sweet Home, mais il y avait plusieurs tranches d'âge, en effet, beaucoup d'enfants différents, et notamment au cœur de ça des ados, qui venaient aussi de 2 milieux différents, et un bourgeois et une prolo, et voilà. On y revient toujours.
Le dernier roman en date, c'est Plexiglas, mais voilà, il y a une histoire qui se fabrique comme ça, d'un écrivain, Antoine Filias, notre invité, donc, qui, parfois eu des obsessions musicales, hein, il les a encore pour certaines, vous verrez l'une d'entre elles en fin de discussion tout à l'heure, et puis il y en a d'autres, il y a évidemment Pavement, il y a Stephen Malkmus, et puis il y a Adam Green, hein, ce lutin new-yorkais qui a fait aussi lui revivre le folk à une époque où on ne l'attendait pas vraiment, hein, techno et puis néo-garage battaient leur plein, lui il décide de faire autre chose, de faire avec sa copine Kimi Adam Dawson et puis Jeffrey Lewis et puis d'autres, eh bien revenir ce folk en la présence d'un freak folk, d'un anti-folk, ça t'a séduit aussi à l'époque où c'est arrivé ou un peu plus tard?
Un tout petit peu après, parce que les Moldy Peaches, c'est 2000-2001, moi ça m'arrive vraiment il y a 20 ans, vers 2003-2004, je prends, c'est là où j'ai 13-14 ans, où je prends toute la scène new-yorkaise de 2001 justement, les Strokes également, Interpol, etc. Et puis surtout les Moldy Peaches, et en fait Adam Green, j'y viens avec le deuxième album solo qui est Friends of Mine, qui est un petit classique des années du siècle pour moi, où on est déjà dans la pop, où il est déjà crooner et c'est surtout un grand songwriter très drôle dans la lignée de Lou Reed, mais encore plus drôle et plus de son temps, quoi. Et ça va s'en suivre, là je vais devenir fan. Il se trouve qu'Adam Green est très accessible, il se trouve qu'il tourne beaucoup en France à l'époque, j'ai dû le voir 12 fois en concert, je l'ai interviewé 5-6 fois, et si tu veux, à chaque fois c'est un rendez-vous qu'un vieux pote, tout simplement. On a tous des groupes comme ça et là c'est depuis 20 ans je le suis, et en plus même si on parle moins de ses albums aujourd'hui, et qu'il a été exploré d'autres univers aussi, la peinture, les films expérimentaux, il a toujours sorti des albums très 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 bons. Moi j'ai notamment adoré, alors j'ai moins aimé le dernier, mais j'ai adoré celui d'avant, et en 2016 ou 15 il sortait Aladdin, qui était la bande originale justement d'un film qu'il avait réalisé, qui est rempli de chansons magnifiques, peut-être parmi mes préférés de lui sont là-dedans. Je vous conseille de voir le film et surtout d'écouter la BO. À l'époque, j'ai participé à ça, puisqu'on était allé à la grande mode des financements participatifs, et j'ai bêtement donné de l'argent à Adam Green, mais quand même ça m'a fait plaisir, parce que j'ai reçu le CD et le film en avant-première, et puis surtout Il avait été venu faire un concert en Vendée, figurez-vous, à La Roche-sur-Yon. On avait tous fêté ça de manière incroyable. Et je finirai avec l'anecdote que c'est un soir où j'ai fumé une cigarette rigolote et mangé de la pizza avec Macaulay Culkin, l'acteur principal de Maman, j'ai raté l'avion.
Adam Green, donc, Aladdin, la musique du film est d'Adam Green, la pochette de la musique du film est d'Adam Green, et les dessins à l'intérieur sont d'Adam Green aussi. Sélection d'Antoine Fillas à nouveau, Karen Dalton.
Une de mes voix favorites qui a été trop peu capturée. Elle a sorti que deux albums solo officiels, même si depuis son décès, il y a plein de petites choses qui ressortent, des concerts notamment. Elle avait commencé au Greenwich Village, j'avais en même temps que Dylan, Joan Baez et d'autres. Sauf qu'elle était agoraphobe et puis dépressive. Donc elle s'est très vite retirée de la scène, s'est mise dans une cabane. Et puis elle a eu le temps de sortir que deux albums qui sont magnifiques. Et je crois que c'est ma voix favorite en fait. Impossible avec Nina Simone, je pense que c'est mes deux voix favorites, mais dans deux registres différents évidemment. Mais j'ai impossible pour moi d'entendre Karen Dalton sans ressentir toujours quelque chose, alors qu'il y a très peu de titres finalement, mais à chaque fois j'y retrouve quelque chose. Et là, notamment quand elle reprend des classiques soul comme Hospital Is, c'est incroyable. On a l'habitude de passer du Karen Dalton des morceaux un peu plus dépressifs, un peu plus sombres. Là, l'entendre chanter, s'égosiller sur de la soul comme ça, avec entre lumière et en même temps, c'est un peu comme les Beach Boys, c'est lumineux, mais on sait sais qu'il y a de la tristesse derrière, et ben je trouve ça incroyable.
La sélection musicale d'Antoine Filias, vous la retrouvez bien sûr sur canalb.fr, dans la playlist de cette émission que vous écoutez en ce moment, dans les émissions Le Tri Sélectif le dimanche, et puis ceux qu'on entend aujourd'hui, vous les retrouverez à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. Je vous rappelle que c'est avec eux qu'on a entrepris cette série Champs Libres. Ah, et là on va poursuivre avec un extrait d'une bande d'annonce de film, on en reparle juste après.
He was an intellectual who advocated action. He was a rebel who fought for tradition. He was an artist who shocked the world. Francis Ford Coppola and George Lucas present a new film by Paul Schrader. Mishima. His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time. And on November 25th, 1970, his life became the ultimate expression of his art. Mishima.
Les ambiances se suivent et se ressemblent assez peu finalement dans cette discussion avec Antoine Filias. Là, vous entendiez un extrait de la bande-annonce du film Mishima de Paul Schrader, la vie de cet auteur, poète japonais, sulfureux évidemment, hein, il se suicidera, il a eu des accointances pour le moins discutables, voire fascistes, mais tout de même un film qui t'a captivé.
Ouais, il m'a plus que captivé. Moi, je trouve que c'est vraiment en termes de biopic au cinéma, je trouve que c'est un des meilleurs, des exemples qui m'a le plus frappé. Paul Schrader qu'on connaît pour le scénario de Taxi Driver et puis pour d'autres films, notamment je conseille aussi Blue Collar, qui est un de mes favoris, qui parle aussi de la vie des classes. Là, il raconte la vie de cet auteur, sulfureux certes, mais il la raconte, c'est Mishima en 4 chapitres, puisque il va utiliser 4 manières différentes de filmer 4 périodes différentes de la vie de l'auteur, et c'est pas évident d'écrire sur un écrivain, de filmer un écrivain, parce qu'en général, quand on filme des écrivains au boulot dans les films, c'est
les écrivent.
Ils écrivent, ou alors justement on romanise un peu trop la manière d'écrire et c'est pas du tout réaliste non plus. Et là c'est l'écriture se met à l'écran vraiment avec des mises en scène incroyables, des extraits de romans qui sont mis en scène par Schrader, et c'est une claque visuelle, et surtout moi ça m'inspire beaucoup pour comment réinventer l'écriture du biopic, parce que c'est un thème qui m'intéresse même en littérature. Et en littérature d'ailleurs, il y a, je le mentionne maintenant, Jean Echenoz, qui est un de mes auteurs favoris contemporains, même s'il est plus à la fin de sa vie qu'autre chose, mais qui a écrit pour moi pareil en littérature les meilleurs exemples de biopic. Qui s'était même donné une des contraintes à un moment d'écrire des biographies de personnages célèbres en 100 pages. Il avait fait Ravel notamment, il avait fait Tesla, il avait fait surtout un roman, j'ai oublié le nom du coureur, mais un coureur tchèque qui avait gagné les Jeux Olympiques pendant des années, Zlatopek plutôt, voilà. Le bouquin s'appelle Courir, pour moi c'est le plus grand roman français du 20e siècle, même si je crois qu'il est sorti au début des années 2000, enfin bref, je fais des superlatifs comme ça, mais c'est pour vraiment vous dire que quand on fait des biopics bien, et ben il y a Courir de Jean Echenoz en littérature et Mishima de Schrader au cinéma.
Tu laisses de côté le Bob Dylan par Scorsese, finalement un peu trop bizarre,
Bob Dylan par Todd Haynes, I'm Not There, tu veux dire. Non, j'aime beaucoup aussi, je trouve que c'est une version un peu moins sérieuse de ça, mais c'est sur le même principe, ouais.
Bon, en tout cas, on va arriver à Bob Dylan, vous l'avez compris, puisque c'est lui, notre invité mystère, il est là. On va terminer la partie musicale de l'émission dans un instant avec, oui, ton idole définitive, sans doute, Bob Dylan, on verra. Mais avant ça, parle-nous d'autres auteurs qui, comme Echenoz, t'ont bouleversé, te bouleversent encore, d'ailleurs.
Je disais tout à l'heure qu'à l'adolescence, j'étais très branché comme pas mal de jeunes littéraires par Kerouac, et je m'en suis remis. Par contre, il y en a un de la même époque que je me suis permis, c'est Jack London, enfin pas de la même époque, mais les bouquins qu'on découvre à l'adolescence, et je crois que mon livre de chevet encore aujourd'hui, c'est Martin Eden de de Jack London, qui a d'ailleurs été joliment adapté au cinéma, moi je trouve, il y a quelques années. J'ai fait une fac de lettres où je m'emmerdais beaucoup, et j'ai relu les bouquins qu'on m'avait fait acheter à l'époque beaucoup plus tard, bien après que j'ai abandonné mes études. Et celui sur lequel je reviens le plus souvent, c'est Flaubert. Madame Bovary notamment, mais l'éducation sentimentale, tout Flaubert en fait. Même les correspondances de Flaubert, parce que j'aime beaucoup sa méthode en fait. J'aime beaucoup sa méthode de travail. En lisant ses correspondances, il m'apprend évidemment plein de choses sur comment se donner une éthique de travail quand on est auteur. Et puis évidemment, Flaubert, c'est l'art de la phrase. J'ai jamais lu des bouquins où chaque phrase, pour moi, je suis obligé. Je les relis en me disant, ok, j'apprends à faire des phrases en le lisant, quoi. Et ça, c'est vachement important parce que le bouquin, c'est. Pour moi, écrire, c'est juste essayer de fabriquer des phrases qui sonnent bien, quoi. Donc, Flaubert, et puis dans plus contemporain, moi, je dirais dans les dernières années, puis aussi qui m'ont pas mal inspiré pour Plexiglas, c'est le travail d'un autre auteur qui sera invité au Champ Libre pour Jardin d'hiver, le 3 février aussi, c'est François Bégodeau, dont le travail en fiction, en roman, pour moi, est assez incroyable. Je pense notamment à son roman En guerre, mais il m'a surpris l'année dernière en sortant, pour moi, son roman le plus puissant, L'amour. Déjà, c'est pas rien d'appeler son bouquin L'amour. Il est à la hauteur de son sujet, puisque, comme je disais, Echnoz racontait en 100 pages la vie de personnages célèbres. Lui, il raconte en 100 pages toute l'existence d'un couple pas du tout célèbre, qui habite aussi dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire, comme mes personnages dans Plexiglas. Et une énorme claque, un modèle d'économie, d'ellipse. Et je l'ai prêté à pas mal de monde, et les gens sont d'accord avec moi. Et bon, il a pas besoin de moi pour faire de la pub, mais voilà, je lui dirai en personne la semaine prochaine.
Vous retrouverez donc Antoine Filias au Champ Libre pour Jardin d'hiver et nous parler et vous parler de Plexiglas, son troisième roman paru chez Asphalt en août 2023. On va terminer en musique, évidemment, avec Bob Dylan. Ceux qui t'écoutent dans Tri Sélectif le savent, c'est plus qu'une obsession que tu voues au Bobby américain, roi du folk, on va le dire, c'est sûr, électrique ou pas électrique, avec ou sans chapeau, avec ou sans groupe. C'est ce qui te plaît le plus chez lui, c'est toutes ces dimensions.
Ouais, ce qui me plaît le plus chez Dylan, c'est qu'il y a 50 Dylan différents. Et plus sa carrière continue, plus il continue de créer, plus il invente de nouveaux Dylan ou revisite d'anciens Dylan. C'est une marmite, voilà, on y tombe et puis après c'est infini. Moi, j'ai toujours pas fini d'en faire le tour. C'est une œuvre étourdissante, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dylan que pour la période folk, c'est quoi, ces trois albums, ou que pour la période électrique, ou en tout cas la majorité des gens le connaissent pour ses années 60. Depuis, il y a cinq autres décennies qui sont remplies de plein de choses. Moi, là, j'ai notamment choisi un album qui est sorti en janvier 74, il y a 40 ans. Le seul album officiel qu'il a enregistré avec le band, même si avec ce groupe-là, il avait fait d'autres choses, et les Basement Tapes notamment, mais en termes d'album studio officiel, il y a donc ce Planet Waves, dont il a réalisé la pochette, puisque c'est un artiste également visuel, Planet Waves, ou peut-être le morceau le plus connu, c'est Forever Young, et qui est en fait qui est rempli de petits trésors oubliés, comme j'aime le dire dans le tri sélectif. Et j'ai choisi ce morceau, en plus c'est l'album qui est un peu mal aimé, ce qui tombe juste avant Blood on the Tracks et Desire, qui sont ces deux grands chefs-d'œuvre des années 70. Et celui-ci, il a beau être mineur, moi je l'aime beaucoup. Il y a ce morceau qui s'appelle Something There Is About You, celui que j'ai choisi, où il alors toujours à la façon de Dylan, on sait jamais si c'est de l'autofiction ou pas, peu importe, c'est avant tout des chansons, mais c'est une chanson où voilà, le narrateur, on va dire, retourne dans un petit village du Minnesota, village ouvrier, et voit une sorte de beauté dans les paysages. Il voit notamment soit un amour qu'il a oublié, soit il se voit lui-même, un lui-même qui n'existe plus quand il voit des anciens paysages. Et c'est vrai que moi, voyant, en retournant à Cholet, écrivant Plexiglas, il y a un peu de ça. Et en plus, je le dis, j'ai choisi aussi parce qu'il écrit ça, il a le même âge que moi à l'époque. J'aime bien voir qu'est-ce que faisait Dylan, qu'est-ce qu'il avait fait. Merde, bon, il y a bien plus de choses, mais voilà, ça me met une espèce de timeline dans ma vie, quoi.
Plexiglas, c'est le roman, le dernier en date d'Antoine Filias, retrouvez-le dans Tri Sélectif, je l'ai déjà dit, et puis merci à Clarisse, à la Bibliothèque des Champs Libres, et à Antoine Blanchet, au Champ Libre. On termine donc avec ce titre Something There, par Bob Dylan. Merci Antoine.
Merci.
Something there is about you that strikes a match in me. Is it the way your body moves, or is it the way your hair blows free? Or is it because you remind me of something that used to be? No, second that's crossed over. Shaking the wonder and the phantoms of my youth. Rainy days on the Great Lakes, walking the hills of old Duluth. There was me and Danny Lopez, cold eyes, black nights, and then there was Ruth. Something there is about you that brings back a long forgotten truth.
Un extrait seulement de ce titre de Bob Dylan choisi par Antoine Filias. Nul doute qu'il vous l'a ou qu'il vous le proposera dans l'émission Tri-Sélectif le dimanche sur Canal B. Retrouvez-le le 3 février au Champ Libre pendant Jardin d'hiver. On termine Crème de la Crème avec la séquence Morceaux de choix proposée par Ronan Chaplin. Aujourd'hui, il s'enquiert du morceau préféré de Quentin Lejac, coordinateur de Canal B.
Morceau de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Barstool Blues de Neil Young sur l'album Zuma. C'est un morceau qui me fait penser au décès d'un ami, qui était par ailleurs le batteur de mon groupe. Je pense souvent à lui quand j'écoute ce morceau, parce qu'il y a une phrase notamment, c'est « Once there was a friend of mine who died a thousand deaths ». Donc il y avait un ami à moi qui est mort de 100 morts. Ça m'a tout de suite touché et fait penser à ça. Tous, je pense, une playlist de quand on est triste, comme s'il fallait avoir encore plus mal. Il y a des mèmes qui circulent sur internet où c'est quand tu mets repeat parce que t'as pas eu assez mal au moment où tu devais avoir mal dans le morceau. Et voilà, on se les écoute d'ailleurs souvent à suivre, peut-être 40 fois des fois, autant qu'il faut pour passer un moment triste, peut-être. Et j'aime beaucoup le morceau, le côté organique, quoi, la sensibilité de la guitare, ça plus le côté plaintif de la voix, mais ça fait pas vieux blues non plus, c'est un truc assez, ça traverse les âges, quoi, je trouve. Particulièrement cette chanson, que je pense que c'est ma préférée de Neil Young d'ailleurs.
Merci Ronan pour Morceau de choix, merci Quentin pour cette sélection. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Crème de la Crème sur Canal B. Toutes les infos, playlists et réécoutes sur canalb.fr. Ciao !